Ça ne vous a sans doute pas échappé lorsque vous avez lu la Bible, qu'à de multiples reprises, Dieu exhorte son peuple à se rappeler ou à se souvenir de certains événements qui se sont déroulés dans son histoire. Qu'est-ce que le souvenir? Le souvenir, c'est quand on se rappelle quelque chose, ce sont des souvenirs vagues, imprécis, qui remontent à la surface parfois, mais aussi, parfois c'est même des odeurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver quelque part, il y a une odeur là, et ça vous replonge 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans en arrière. Et, je me rappelle. Là, avec le maraîchage, ça amène du souvenir aux gens. Il y avait un monsieur qui avait à peu près pas loin de 80 ans, je pense, qui est venu chercher des carottes. Et il a pris la botte de carottes comme ça, il a senti. Ah, je me rappelle. Ça me rappelle quand j'étais avec mon père dans le jardin. Voilà, le souvenir, ça peut être ça. Ça amène des scènes, des images. Et il y a des souvenirs qui sont plus organisés, comme les expériences du passé, bonnes ou mauvaises, et qui font partie intégrante de notre vie. Quand on écrit son autobiographie, on raconte ce dont on se souvient. En général, on ne partage que les souvenirs dont on est fier, pas tellement ceux dont on rougit de honte, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, les alliances qui étaient contractées entre deux hommes, deux familles, ou entre Dieu et les hommes, ont presque systématiquement toujours été associées à un symbole qui devait servir de mémorial pour les générations futures. Souvent, on érigeait des monceaux de pierre pour, comme souvenir d'une alliance. Et c'est un souvenir qui devait rester. Et donc on rebâtissait à chaque fois ce monceau de pierre s'il s'écroulait. Après le déluge, Dieu a produit un arc dans le ciel. Et c'est dommage, n'est-ce pas, que la terminologie ait changé. On parle d'arc-en-ciel. Mais la Bible parle d'un arc dans le ciel. Et c'est Dieu qui l'a placé là pour se souvenir, pas d'abord pour nous, d'abord pour lui, pour se souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là, et aussi se souvenir que plus jamais la terre et les humains ne seraient détruits par l'eau. Et on l'a lu ce matin, par contre, c'est réservé pour le feu la prochaine fois. Une autre façon de se souvenir passait par les ordonnances de Dieu. Quand Israël a mangé l'agneau de la Pâque, juste à la sortie du pays d'Égypte, c'était en souvenir et c'était aussi en prévision. C'était ce souvenir de la manifestation de la puissance de Dieu qui les avait libérés de l'esclavage et en prévision de la manifestation de la puissance de Dieu pour le rachat de l'humanité. Et cet épisode de la délivrance du pays d'Égypte, la Pâque de l'Éternel, devait être remémoré chaque année. Les Juifs continuent à fêter Pessah en avril, chaque année, depuis ce temps-là. Le souvenir fait donc partie intégrante de notre vie. Et pour nous qui sommes sauvés, le souvenir fait partie aussi de notre salut. Celui qui n'a pas le souvenir de la façon dont Dieu l'a sauvé n'est pas en mesure de dire de quoi il a été sauvé. Notre salut ne peut pas être théorique. Il est obligatoirement lié à une expérience et donc à un souvenir. Dieu nous demande de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que nous appelons le témoignage. Il y a aussi le souvenir de nos erreurs, de nos rébellions, de notre manque de pardon. Il y a les souvenirs de l'enseignement du Saint-Esprit, quand il a un jour éclairci un passage de la Bible, lorsque, par un seul mot, il vous a fait comprendre le sens profond de son message. En ce qui me concerne, à chaque fois que le Seigneur m'a parlé ou montré quelque chose, ça s'est inscrit dans mon cœur et dans ma mémoire de façon définitive. Ce que je veux dire, c'est que quand notre Dieu nous demande de nous souvenir, il ne nous demande pas de nous forcer, de nous rappeler quelque chose de vague, quelque chose qu'il aurait peut-être fait dans notre vie, mais de nous souvenir et de nous remémorer les fois où il nous a parlé, où il a donné des réponses. Et aussi, quelles réponses nous avons fait à Dieu à ce moment-là. Dieu nous a parlé de différentes manières. On ne l'a peut-être pas toujours entendu, mais il nous a parlé de différentes manières. Par la prédication, par un frère ou une sœur qui nous parlait face à face, en surfant sur Internet peut-être, en écoutant des messages, au groupe de jeunes, à l'école du dimanche, et de plein d'autres manières possibles. Et le jour où nous serons face à lui, il nous dira: est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit et comment je t'ai parlé? Et tous, à ce moment-là, nous nous rappellerons qu'effectivement Dieu nous avait parlé, qu'il nous avait dit quelque chose de particulier. Et selon le cas, nous serons soit couverts de honte, soit resplendissants de gloire. Lorsque nous serons face à Dieu, il nous rappellera comment il nous a attirés à lui et comment peut-être en chemin nous avons négligé les avertissements qu'il nous donnait de ne pas nous retourner sur notre passé. Lot et sa famille habitaient dans une ville qui s'appelait Sodome. Et cette ville, Dieu a décidé qu'il la détruirait à cause du péché qui avait atteint des sommets de méchanceté et de perversion. Abraham savait que son neveu habitait là, puisqu'ils s'étaient partagés, n'est-ce pas, la destination à un moment. L'un avait pris la montagne et l'autre la vallée. Lot était parti dans la vallée. Et Abraham plaide avec Dieu pour qu'il épargne la ville, pour qu'il épargne son neveu. Alors, à ce moment-là, il y a des anges qui entrent dans cette ville. Lot les voit passer et il leur dit: venez chez moi, passez la nuit dans la maison, plutôt que de rester dehors. Alors, ils rentrent chez Lot, ils mangent ensemble, mais la population avait remarqué ces deux hommes, ils savaient qu'ils étaient là, et ils viennent pour les chercher. Lot refuse de leur ouvrir la porte. Il négocie avec eux. Alors il menace d'entrer de force chez lui. Et à ce moment-là, les anges utilisent leur pouvoir pour aveugler la foule. Alors les anges disent à Lot et à sa famille qu'ils sont là, en fait, pour le jugement de Dieu, pour détruire la ville. Mais qu'avant cela, ils avaient pour mission de venir les chercher, lui et sa famille. Alors au matin, Lot, sa femme, ses deux fils sont conduits hors de la ville et un des anges les met en garde. Et il leur dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Alors ils partent. Et la femme de Lot se retourne. Et elle est restée pétrifiée sur place, incapable d'avancer plus loin. Est-ce que parfois nous nous retournons sur notre passé avec des regrets? Si je n'étais pas parti en Angleterre pour servir le Seigneur, aujourd'hui je serais à la retraite. Si je n'avais pas arrêté mes études pour m'occuper de l'Église, aujourd'hui, j'aurai un diplôme beaucoup plus prestigieux. Si je ne m'étais pas marié avec ce pasteur, aujourd'hui, je serais peut-être marié à un prince. Après pasteur, c'est le prince. Si je n'avais pas parlé du Seigneur à cette personne, eh bien aujourd'hui j'aurais eu cet emploi. C'est sûr. Lorsque nous évoquons nos regrets, nous ne progressons plus dans notre marche avec le Seigneur et nous sommes en train de le renier. Dans Luc, Jésus donne un avertissement. Et il nous appelle à nous souvenir. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Dieu nous a sauvés pour que nous perdions nos vies, pour que nous donnions nos vies. Comme lui a donné sa vie pour un monde qui périt sous l'esclavage du péché. Nous n'avons pas été sauvés pour épargner nos vies. Vous savez ce que ça signifie, épargner? Se mettre à la banque et conserver et empiler. On n'a pas été sauvés pour épargner nos vies. Mais pour qu'elles soient données et dépenser pour ceux qui ont besoin du salut. Lot, ta femme avait des regrets concernant sa vie d'avant, et elle en est morte. Mais toi, Lot, cours, ne t'arrête pas, sauve ta vie. Jésus est venu une première fois en tant que serviteur. Et il viendra à nouveau. Mais cette fois-ci comme un Messie triomphant. Dans le deuxième livre de l'Apocalypse, Jésus demande à Jean d'écrire, d'après la vision qu'il reçoit, et d'envoyer ça aux sept églises. C'est une sorte d'état des lieux personnalisé qui est envoyé pour que chacun puisse se préparer avant son arrivée. Et la première église à laquelle Jean écrit, c'est l'église d'Éphèse. Et il dit la chose suivante. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Bravo. Mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Dans l'ensemble, le bilan d'Éphèse est plutôt pas mal. Si on fait une moyenne, on pourrait donner 8, 8,5, presque 9 sur 10. Mais Dieu ne se satisfait pas d'une bonne moyenne. Il se satisfait uniquement de la perfection. Et ce qui ne passe pas pour Dieu, mais alors pas du tout, c'est la perte du premier amour. Cette église avait eu pour son Seigneur un amour enflammé qui a progressivement décliné jusqu'à devenir inexistant. Dieu veut captiver nos cœurs. Et s'il n'a pas nos cœurs, eh bien, il considère qu'il n'a rien. Parce que, n'est-ce pas, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et souvent, il se satisfait de ça. Mais Dieu regarde au cœur. Et c'est cela qu'il veut. Alors, Dieu a ses paroles. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Si nous sommes tombés, nous savons exactement d'où nous sommes tombés. Et Dieu nous demande de faire preuve d'honnêteté, de reconnaître que nous avons fait fausse route. Puis, de faire marche arrière. Des fois, c'est une longue marche arrière. Peut-être même très longue marche arrière. Mais c'est ce que Dieu nous demande. De faire une marche arrière jusqu'à l'endroit où nous avons pris un autre chemin que celui qui glorifie Dieu. Et alors, nous pouvons repartir sur le bon chemin. Parce que sinon, le jugement de Dieu viendra avec sa sanction, qui est terrible. Le chandelier sera ôté et l'Église cessera d'exister. Repens-toi. La repentance, ce n'est pas se frapper la poitrine et de gémir en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» La repentance, c'est de recommencer à faire ce qui plaît et qui glorifie Dieu. Pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres sont celles que Dieu aime, celles qui plaisaient à Dieu. Celle qui montrait que tu avais un amour enflammé pour Dieu. C'est quand tu te donnais à lui sans réserve, quand tu te confiais à lui sans crainte. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu pratiques à nouveau ce matin. L'apôtre Paul en parle de façon merveilleuse, Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà ce que c'est que de pratiquer les œuvres que Dieu aime. Souviens-toi donc d'où, de quelle hauteur tu es tombé. N'est-ce pas? On tombe toujours d'une hauteur. Eh bien, Éphèse était tombé très bas. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Dans Jean 14, au verset 12, nous lisons Jésus qui parle et qui dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Une des œuvres que le Seigneur nous a montrées, ce n'est pas les miracles. C'était aussi des miracles. Et ça, c'est ce que les hommes voulaient voir, les miracles. Mais une des œuvres que le Seigneur nous a montrées, c'est celle de son entière soumission à Dieu le Père. Certains font de la soumission un spectacle. Les pénitences, par exemple, lorsqu'elles sont faites en public, ce sont des spectacles. Le juste et moi, nous avons pu voir ça en Israël, un religieux qui montait... En Israël, le mont des Oliviers a reculons en disant des prières. C'était sa pénitence. Certains font de la soumission à Dieu une belle théorie. Ils citent des versets bibliques, mais dans la réalité, ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Le véritable disciple, c'est celui pour qui la soumission à Dieu est un style de vie. C'est l'héritage que Christ a laissé à ses amis. Et Jésus a donné un exemple de cette soumission, on en a donné plusieurs. Mais l'exemple suprême, c'est le don de sa personne, n'est-ce pas, à l'humanité. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il trouvait que c'était une bonne idée, mais parce qu'il était disponible et parce qu'il était disposé à ce que Dieu se serve de lui, l'utilise comme bon lui semblait pour le salut de l'humanité, pour votre salut, pour mon salut. Et c'est pourquoi on lit cette prophétie dans Ésaïe, chapitre 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Je vais le répéter, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce verset est sans doute en rapport avec Jean 14, 12. Que je viens de lire. N'est-ce pas? Je le répète, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. La disponibilité pour que Dieu nous utilise, y compris dans les chemins de la souffrance, c'est assurément une œuvre merveilleuse de la foi. C'est pour ça que Jésus invite tous ses disciples à le suivre et à prendre sa croix, à prendre leur croix, à prendre leur part du brisement qu'il a connu à la croix. Si Jésus est monté sur la croix, ce n'est ni le fait des Juifs, ni le fait des Romains, mais c'est le fait de la volonté de Dieu lui-même. Jésus a été brisé dans les mains du Père, par les mains du Père. C'est le Père qui l'a sacrifié. Et Jésus veut que nous gardions en mémoire que son corps a été brisé, que son sang a coulé. Luc 22, verset 17, « Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en vous rappelant de moi, en mémoire de moi. » Être brisé par Dieu, ce n'est pas la même chose qu'être brisé par les hommes. Les hommes sont souvent les agents de Satan dans la persécution. Mais si nous vivons notre vie selon la loi de la foi, comme dit l'apôtre Paul, eh bien, nous verrons dans toutes les persécutions la main de Dieu. Et nous pourrons aussi prier le Père en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous ne sommes pas là pour que nos vies soient épargnées. Nous sommes là pour que nos vies soient données. Qu'elles soient données à Dieu, premièrement. Rendu disponible pour que Dieu puisse utiliser notre vie pour le salut des autres. Est-ce que nous voulons nous rappeler que Jésus a été brisé pour nous et que son brisement à lui, c'est aussi le brisement de ses disciples? Vous ferez de plus grandes choses. Vous serez vous aussi brisés et vous serez nombreux à être brisés. C'est pour cela que ce sont des plus grandes choses. Disponible. Est-ce que nous sommes disponibles pour être du pain brisé? Pour prendre la croix de Christ, boire la coupe de souffrance de Christ, être immergé dans son agonie. Philippiens 3, 8, « Et je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Est-ce que nous sommes disposés et disponibles pour le brisement, pour le salut de nos proches? Dans Marc 10, 39, Jésus prophétise à ses disciples qu'ils passeront par les mêmes souffrances que lui. Est-ce que nous sommes disciples de Christ? Si nous disons oui, alors nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son Maître. Et ce qu'il a vécu, nous le vivrons aussi. Et à part Jean, nous savons que tous les disciples sont morts martyrs. Aujourd'hui, pour nous souvenir de ce que Dieu a fait, nous n'avons plus besoin d'empiler des cailloux les uns sur les autres. L'arc de Dieu est toujours dans le ciel et il est toujours là pour nous rappeler qu'il n'y aura plus de déluge. C'est aussi la manifestation de la clémence de Dieu à l'égard de l'humanité aujourd'hui. C'est encore le temps de la patience. Dans Jean 14, Jésus annonce aux disciples qu'il enverra le Saint-Esprit pour qu'il leur enseigne toutes choses et pour qu'il leur rappelle les paroles, ses paroles à lui, lorsqu'il était avec eux. Cette annonce de Jésus avait été prophétisé par Jérémie. Jérémie 31, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Le rappel du Saint-Esprit ce matin, c'est « Souviens-toi de la femme de Lot, pétrifiée dans ses regrets. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi que mon corps a été donné, brisé pour toi. » Et que le serviteur n'évitera pas les souffrances par lesquelles son maître est passé. Dieu nous demande de nous souvenir. Et le Saint-Esprit aujourd'hui est là pour nous rappeler ces choses à notre cœur en permanence. Dieu veut que nous nous rappelions comment il nous a sauvés de notre vaine façon de vivre. De nous souvenir que même si nous sommes tombés, il nous pardonne, il pardonne aux pécheurs repentants, parce qu'il a pris sur lui notre péché, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et vous savez pourquoi? Pour que Dieu lui-même ne se souvienne plus jamais de nos péchés. Dieu nous demande de nous souvenir pour que lui puisse oublier. Et on lit ça à différents endroits. J'ai choisi Michée 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Vous savez, quand on met quelque chose sous ses pieds, eh bien, on ne le voit plus. Parce qu'on n'a pas les yeux pour voir ce qui se passe en dessous de nos pieds, n'est-ce pas? Mais c'est ça que Dieu dit. Je mets sous mes pieds vos iniquités. Et de cette sorte, je les oublie. Ce matin, l'exhortation, elle est là. Que nous puissions nous souvenir, afin que Dieu puisse oublier nos péchés. Je vais prier. Seigneur, nous sommes tellement privilégiés de que tu sois notre Dieu, que tu aies posé ton regard sur nous un jour et que tu nous aies montré ton amour. Et Seigneur, quelle que soit notre situation ce matin, nous voulons premièrement nous souvenir de ce que tu as fait et deuxièmement remettre toute chose en ordre, dans le bon sens, en nous rapprochant de toi, Seigneur, et en pratiquant les œuvres du premier amour. Seigneur, nous voulons te dire que nous ne savons pas comment c'est possible, mais nous voulons nous rendre disponibles pour toi, afin que tu puisses nous utiliser en toutes circonstances. Et quelles que soient les conditions de vie qui sont les nôtres, Seigneur, pour que tu puisses nous utiliser, nous briser, et que ce brisement soit le salut de ceux qui sont, que tu nous as donnés. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin.